Ils ajoutèrent qu'ils lui avaient ouï dire qu'il ne voulait pas habiter seul, sur la montagne de Sion, mais qu'il voulait partager sa gloire avec les siens. Pour cela, il les avait élevés à la dignité de prince, bien qu'ils fussent nés dans la plus basse condition, et que de leur origine ils ne fussent que poudre et cendre. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Samuel 2, 8. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Psaume 103, 14. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. C'est ainsi qu'ils s'entretinrent jusque bien avant dans la nuit. Ensuite, les maîtresses du château remirent le chrétien à la protection du Seigneur et allèrent prendre leur repos après l'avoir mené dans une chambre haute et fort spacieuse, nommée la paix, dont les fenêtres regardaient au levant et où il dormit jusqu'à ce que le jour parut. Alors il s'éveilla en chantant « Aux grâces précieuses et saintes, que notre bon Sauveur veuille donner son corps, son sang, tous ses divers trésors, à tous ceux qui marchent sans feinte, dans le chemin semé de croix et qui suivent ses saintes lois. Je sens une secrète joie que mon sacré dépôt excite dans mon cœur. C'est lui qui guérit ma langueur par l'efficace qu'il déploie, et maintenant j'habite en paix aux portes du divin palais. » Chapitre 11. Suite, curiosité du lieu, départ. Dès que chacun fut levé dans la maison, les mêmes personnes de la veille se rendirent dans la chambre et dirent au chrétien qu'elles ne voulaient point le laisser partir avant de lui avoir montré les curiosités de ce lieu. Ainsi, elles le menèrent d'abord dans leur cabinet et lui montrèrent des registres de la plus merveilleuse antiquité. En premier lieu, elles lui firent voir la généalogie du seigneur de la colline qui portait qu'il était issu de l'ancien des jours par une génération éternelle. Michée 5, un maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes. On nous assiège, avec la verge on frappe sur la joue le juge d'Israël. Là était aussi déduite au long ses faits historiques et les noms de plusieurs milliers d'hommes qu'il avait pris à son service et dont il avait récompensé la fidélité en les introduisant dans l'auguste palais qui ne peut être détruit par le temps. Elles lui lurent quelques traits d'histoire concernant certaines actions mémorables de quelques-uns de ses serviteurs, comment ils avaient conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu les promesses, fermé la gueule des lions, éteint la force du feu, échappé aux tranchants de l'épée, comment ils avaient recouvré la santé, s'étaient montrés vaillants dans les batailles et avaient tourné en fuite les armées étrangères. Hébreux 11, 33-34 qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Elles lurent dans une autre partie de ce registre que le Seigneur était disposé à recevoir chacun en grâce quelques injustices qu'il eut commises dans le passé, tant contre sa personne que contre les siens. Le chrétien lut encore dans ses mémoires divers événements singuliers, comme aussi des prophéties et des menaces qui doivent avoir leur accomplissement certain, et qui ont été consignées dans ses livres, tant pour inspirer de l'effroi aux ennemis, que pour donner de la consolation et du courage aux voyageurs. Le lendemain, elles le menèrent dans leur arsenal, où elles lui montrèrent toutes sortes d'armes, dont le seigneur du lieu a accoutumé de pourvoir les voyageurs, tels que l'épée, le bouclier, le casque, la cuirasse. Éphésiens 6, 13-17. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc fermeillé, avouerain la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est là. Parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Il y en avait un si grand amas qu'on en pourrait armer autant de gens, Il y a des toiles au firmament. Elles lui montrèrent aussi certains instruments à l'aide desquels quelques-uns de ses serviteurs avaient fait des exploits miraculeux, la verge de Moïse, les trompettes et les flambeaux, avec lesquels le peuple d'Israël mit en déroute les Madianites, le marteau et le pieu, dont se servit Jaël pour tuer Sisra, la fronde de David et la pierre, avec laquelle il a bâti, le géant Goliath, enfin l'épée avec laquelle le Seigneur tuera tôt ou tard l'homme de péché quand il se lèvera pour fondre sur sa proie. Elles lui firent encore voir plusieurs choses merveilleuses, dont le chrétien fut fort réjoui, après quoi chacun retourna en son repos. Le lendemain, je vis qu'il se leva de bon matin pour continuer son voyage, mais les personnes du château le sollicitèrent de s'arrêter encore jusqu'au jour suivant, car, dirent-elles, nous voulons vous montrer, si le temps est serein, où sont situées les aimables collines, qui doivent encore beaucoup plus contribuer à votre consolation que ce palais, parce qu'elles sont beaucoup plus proche du port désiré. Il y consentit et s'arrêta encore ce jour-là. Elles le menèrent donc le lendemain sur le faîte de la maison et lui dirent de regarder du côté du midi ce qu'il fit. Aussitôt il découvrit dans l'éloignement un contrée fort montueuse, ornée de bocages, de vignobles avec toutes sortes de fruits et de fleurs, de ruisseaux et de cascades, ce qui était fort agréable à voir. Le chrétien demanda comment se nommait ce pays, on lui répondit qu'il se nommait le pays d'Emmanuel. Il est, ajoutèrent-elles, à l'usage des pèlerins et des voyageurs, de même que cette colline-ci. Lorsque vous y serez arrivés, vous découvrirez de là la porte de la cité céleste, comme vous l'apprendront les bergers qui habitent ce pays. Sur cela, le chrétien prit la résolution de continuer son voyage, ce à quoi ses hôtesses consentirent sans peine. Toutefois, dirent-elles, entrons dans l'arsenal. Là, elles le couvrirent de pieds, en cas d'armes à toute épreuve, en cas qu'il fût exposé à quelque assaut dans la suite de son voyage. Ainsi armé, il marcha avec ses bonnes amies du côté de la porte, où il demanda au portier s'il n'avait point vu passer de pèlerins. Oui, répondit le portier. Ah! Mon cher ami, dit le chrétien, ne l'avez-vous point connu ? Le portier répondit, je lui ai demandé son nom, il m'a répondu qu'il se nommait le fidèle. Oh ! Dit le chrétien, il vient aussi du pays de ma naissance, c'est mon compatriote et mon plus proche voisin. Croyez-vous qu'il soit déjà bien loin ? Le portier, il est au bas du coteau. Le chrétien, eh bien, mon cher ami, le Seigneur soit avec vous et vous bénisse de toutes ses bénédictions pour le bien que vous m'avez fait. Ainsi le chrétien se mit en chemin, accompagné de la discrétion, de la crainte de Dieu, de la charité et de la prudence qui voulurent lui faire compagnie, en réitérant leurs premiers entretiens jusqu'au pied de la colline. Comme la colline est très pénible à la montée, dit le chrétien, elle est aussi, à mon avis, très difficile et dangereuse à la descente. Il est vrai, dit la prudence, c'est une chose difficile que de marcher dans la vallée d'humilité où vous êtes maintenant, sans faire quelque chute ou du moins sans broncher. Le chrétien, voulant profiter de cet avis, marcha en descendant avec beaucoup de précautions, ce qui n'empêcha pas qu'il ne chancela une ou deux fois. Dès qu'il fut arrivé au bas de la colline, la compagnie prit congé de lui en lui donnant un pain, une provision de vin et quelques autres alimes, après quoi il continua son chemin. Chapitre 12. Combat avec Apollyon. Quand l'âme passe par de grandes humiliations au dehors comme au dedans, le démon renouvelle ses plus furieuses tentatives pour la détourner de la foi, mais l'âme qui reste fidèle remporte la victoire. Quand il fut venu jusqu'à la vallée de l'humilité, il s'y trouva dans de grandes détresses, car à peine y était-il arrivé, qu'il aperçut de loin le plus grand ennemi des âmes, nommé Apollyon, autrement destructeur, qui venait fondre sur lui. Le chrétien, à son approche, se trouva saisi d'une si grande frayeur qu'il se demanda s'il devait s'enfuir ou résister, mais ayant réfléchi qu'il n'était point armé par derrière, il pensa que ce serait donner un grand avantage à son ennemi, que de lui tourner le dos, parce que de cette manière il pourrait aisément être percé de ses dards, enflammé. C'est pourquoi il prit la résolution de l'attendre de pied ferme, car, disait-il en lui-même, il s'agit de ma vie, ainsi le meilleur est d'aller en avant et de combattre courageusement. Il passa donc outre, et bientôt Apollyon le joignit. C'était un monstre épouvantable, couvert d'écailles brillantes, ce qui désigne son orgueil. Il avait les ailes d'un dragon et les pieds d'un ours. De son ventre il sortait du feu et de la fumée, et sa gueule était semblable à celle d'un lion. D'abord ce monstre jeta sur le chrétien des regards furieux, et lui demanda d'un ton menaçant d'où il venait et où il se disposait à aller. « Je viens, dit le chrétien, de la ville de Corruption, et je m'en vais à la cité de Sion. » Apollyon, cela seul me prouve que tu es de mes anciens sujets, car tout ce pays-là m'appartient, et j'en suis le prince et le dieu. D'où vient que tu t'es oublié jusqu'à ce point que de te soustraire à l'obéissance de ton roi légitime? Si je n'attendais encore de toi quelque service, je te terrasserais d'un souffle de ma bouche. Le chrétien, il est vrai que je suis né sous ton empire, mais ta domination m'était insupportable, et le salaire que tu donnes à tes serviteurs est si chétif qu'il est impossible qu'un homme y puisse vivre, car le salaire du péché c'est la mort. Romains 6, 23 Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi j'ai sérieusement pensé à secouer ton joug par un sincère amendement, suivant en cela l'exemple de bien d'autres personnes sages et sensées. Apollyon, il n'est aucun prince ni seigneur qui puisse souffrir que ses sujets se révoltent de cette manière. Et quant à moi, je ne prétends pas que tu m'échappes avec tant de facilité. Quant aux plaintes que tu exprimes sur la dureté de mon service et sur la pauvreté du salaire, tu n'as qu'à mettre ton esprit en repos de ce côté-là. Si tu veux rentrer à mon service, je te promets de te donner tout ce que tu voudras en ce monde. Le chrétien, je me suis déjà engagé à un autre souverain, savoir au roi des rois. Ainsi n'espère plus que je veuille jamais rentrer sous ton affreuse domination. Apollyon, tu as fait en cela ce que porte le commun proverbe, tu as passé d'un mauvais maître à un plus rigoureux. Aussi arrive-t-il souvent que ceux qui se disent ses serviteurs lui tournent le dos en peu de temps et reviennent à moi. Fais-en de même et tu t'en trouveras bien. Le chrétien a rien de moi. Je me suis donné à ce bon maître et je lui ai prêté serment de fidélité. Si, après un engagement aussi sacré, je lui étais infidèle, je mériterais de périr comme un traître. Apollyon, tu m'as bien joué le même tour. Je suis prêt à l'oublier si tu reviens à moi tout de bon et sans délai. Le chrétien, ce que je te promis alors, je le fis par ignorance et parce que tu me trompais. Non seulement je sais que le roi, sous lequel je me suis enrôlé, est assez bon pour me pardonner tous les péchés que j'ai commis contre lui et même le crime détestable de m'être donné à toi, sache, ô destructeur, qu'à dire franchement la vérité, sa domination, sa solde, sa récompense, son service, ses serviteurs et sa compagnie valent incomparablement mieux que tout ce que tu peux m'offrir. C'est pourquoi, encore une fois, cesse de me tenter plus longtemps. Je suis son serviteur et je veux m'attacher à lui avec une fidélité inviolable. Apollyon, pense-y encore une fois et considère surtout le peu de fruits que tu peux espérer de ton voyage. La plupart de ceux qui m'abandonnent font une malheureuse fin. Tu vends tout le temps l'excellence de ce maître, mais est-il jamais sorti de son lieu pour délivrer ses serviteurs des mains de leurs ennemis? Au lieu que je suis toujours prêt à secourir ceux qui me servent ou à les délivrer, soit par la ruse, soit par la force. Et je promets que je ne te manquerai point dans l'occasion. Le chrétien, retire-toi, te dis-je. Apollyon, mais réponds à ce que je viens de te dire. Le chrétien, le Seigneur, suspend quelquefois son secours, mais ce n'est que pour éprouver l'amour et la fidélité des siens. Et ce que tu appelles une fin malheureuse où ils tombent parfois, c'est ce qu'ils regardent comme la mort la plus glorieuse, qui puisse terminer leur jour, car ils ne se mettent pas en peine d'une délivrance temporelle, ils ont devant les yeux la gloire qui leur est destinée quand le Seigneur viendra sur les nuées de l'air avec les anges de sa puissance. Apollyon, tu as déjà été infidèle à son service, comment oses-tu te flatter de recevoir de lui quelque récompense? Le chrétien, en quoi, destructeur, lui ai-je été infidèle? Apollyon, dès le commencement du voyage, tu t'es fatigué et tu es tombé dans le bourbier du découragement où tu as manqué d'être étouffé. Tu t'es ensuite engagé dans un chemin écarté pour être déchargé de ton fardeau au lieu que tu aurais dû justement attendre que ton prince t'en décharge à lui-même. Tu as dormi du sommeil du péché et dans cet état tu avais perdu ce que tu devais regarder comme le plus précieux. Tu as eu la pensée de rebrousser chemin lorsque tu as vu des lions. Enfin, dans tous tes discours et dans toutes tes actions, tu aspires secrètement à ta propre gloire. Est-ce cela lui être fidèle? Le chrétien, tout ce que tu dis est vrai, et il y a bien d'autres choses encore que tu ne dis pas? J'avoue que j'avais tous ces défaits, pendant que j'étais sous ta puissance et dans ton pays, mais j'en ai gémis en la présence de mon Seigneur, qui m'en a miséricordieusement accordé la pardon. À ces mots, le destructeur entra en grande fureur et s'écria d'un ton effroyable, « Je suis l'ennemi de ton prince, de ses lois et de son peuple, et je suis venu contre toi à dessein de te combattre. » Encore une fois, s'écria le chrétien, « Arrière de moi. Je suis dans la voie du roi, et tu ne peux m'attaquer sans lui faire outrage. » Cependant, Apollyon se mit en travers du chemin et dit, « J'ai secoué toute crainte. C'est pourquoi prépare-toi à la mort, car je te le jure, par mon abîme éternel, que tu ne passeras pas plus avant, c'est ici qu'il faut que tu meures. » En même temps, il lança un dard enflammé qui vint, sifflant, droit contre la poitrine du chrétien. Mais celui-ci le repoussa avec le bouclier qu'il avait en main. Ainsi il évitait le danger, mais il vit aussi qu'il était temps de se mettre en défense et de se préparer à combattre tout de bon, car Apollyon lançait ses dards sur lui avec une extrême violence, et il volait alentour de sa tête comme une grêle, de sorte que, malgré sa résistance, il en fut finalement blessé de toutes parts, la tête, le cœur, les pieds furent atteints, ce qui le fit un peu reculer. Apollyon ne manqua pas d'en profiter et de poursuivre sa victoire. De son côté, le chrétien s'arma de tout le courage qui lui fut possible, ce qui rendait ce terrible combat plus opiniâtre et plus long. Le chrétien se trouva bientôt extrêmement las, et à cause de ses plaies il s'affaiblissait de plus en plus. Apollyon, sans perdre de temps, et profitant de son avantage, s'approcha du chrétien de plus près dans l'intention de le terrasser, et on peut dire que, s'il ne lui donna pas le coup de mort, il l'ébranla si rudement qu'il fit une terrible chute et que son épée lui tomba des mains. Peu s'en fallut même qu'Apollyon ne l'étouffa, en l'insultant en ces termes, « Maintenant je te tiens en ma puissance, maintenant je triomphe de toi ?» Le chrétien commença à perdre toute espérance de conserver sa vie. Mais comme Apollyon allait faire ses derniers efforts pour perdre son ennemi, le chrétien, fortifié d'une manière toute particulière par son Dieu, étendit promptement la main pour saisir son épée, ce qui lui réussit heureusement. En même temps, il s'écria « Ne te réjouis pas, mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai » et en disant cela, il frappa Apollyon d'une plaie terrible qui le fit reculer comme un homme blessé à mort. Michée 7, 8 « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai, si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Il étendit ses ailes de dragon et s'envola de devant ses yeux de sorte que le chrétien ne le revit plus. Alors, voyant qu'il avait triomphé de son ennemi, il dit Romains 8, 37 « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Oh ! Qui pourrait se représenter les cris et les rugissements dont Apollyon faisait retentir l'air pendant tout le combat, et de l'autre côté quel soupir et quel gémissement le chrétien poussait du fond de son cœur. Je ne pus remarquer pendant ce temps-là un seul rayon de joie sur son visage, jusqu'à ce qu'il s'aperçut qu'Apollyon avait été blessé de son épée à deux tranchants. C'est alors qu'il commença à faire éclater sa joie en élevant les yeux au ciel pour marquer sa reconnaissance et en chantant le cantique suivant. Béelzébul, ce roi de la troupe infernale, avait lâché sur moi un de ses chefs ardents. Ce dragon, animé de fureur sans égale, venait fondre sur moi sans perdre point de temps. En vain par ses discours il tenta ma constance. Dans un pareil combat, il faut vaincre ou mourir. Mais j'allais succomber, malgré ma résistance, si mon roi n'eût été prompt à me secourir. Oui, l'archange Michel, veillant pour ma défense, d'un glaive à deux tranchants arma ma faible main. Par son puissant secours, j'obtins ma délivrance, je blessai le dragon, qui s'envola soudain. Béni soit à jamais l'auteur de ma victoire, mon cher Emmanuel, mon divin protecteur. Donne-moi désormais de vivre pour ta gloire, toi qui dans ce combat, fus mon libérateur. Alors j'aperçus une main qui donnait aux chrétiens quelques feuilles de l'arbre de vie pour les appliquer sur ses plaies, et elles furent aussitôt guéries. Sur cela, il s'assit un moment pour prendre quelque nourriture, celle qu'il avait reçue au palais plein de beauté, et ayant ainsi un peu repris ses forces, il se remit en chemin, tenant continuellement son épée en sa main, car, disait-il, je ne sais quel ennemi je puis encore rencontrer. Il passa cependant tranquillement la vallée, sans plus recevoir aucune attaque, ni d'Apollyon ni d'aucun autre ennemi. Chapitre 13. La vallée de l'ombre de la mort. Au bout de cette vallée, il y en avait encore une autre, nommée la vallée de l'ombre de la mort, ou la vallée obscure, au travers de laquelle il fallait que le chrétien passât nécessairement, car le chemin de la cité céleste passe droit par le milieu. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Cette vallée est un lieu fort solitaire, et le prophète Jérémie la dépeint comme un lieu désert, un pays de landes et montagneux, un pays sec, dans l'ombre de la mort. Jérémie 2, 6. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe, et où n'habite aucun homme. À l'entrée de cette vallée, il rencontra deux hommes, enfants de ceux qui décrièrent autrefois le bon pays de Canaan, et qui retournaient en grande hâte sur leurs pas,